Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America, depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Se rendre chez le médecin quand tout va apparemment bien n'est pas une démarche évidente pour beaucoup de gens. Pourtant, c'est un atout de faire régulièrement le point sur son état physique. C'est ce qu'on appelle un bilan de santé ou check-up médical. Dans la pratique, de quoi s'agit-il? Pourquoi faire un bilan de santé? Quels en sont les bénéfices?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Notre invité Sekouchek Bomba répondra à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Sekouchek Bomba est le PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec Sekouchek Bomba. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
Merci d'être notre invité pour cette émission qui est consacrée au check-up médical ou au bilan de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un bilan médical?
Un bilan de santé est un acte préventif désignant l'ensemble des examens médicaux subis par un individu.
À quoi sert-il?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Il y a aussi la possibilité, au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Donc les bénéfices d'un bilan de santé, c'est au niveau de la prévention d'une maladie?
Je dirais oui, ça c'est la plus importante situation qu'on peut tirer du bilan de santé, c'est la prévention, mais il y a la constatation aussi. Parce que quelqu'un peut être bien portant et toujours souriant, mais il traîne une maladie. Il n'a pas encore été complètement déclenché, mais il a déjà la maladie. Et à ce niveau-là, avec un bilan de santé, on peut avoir des informations. Le corps humain change. Chaque seconde que nous prenons, notre corps s'adapte à notre environnement, à tout ce qui nous entoure, notre manière de nous nourrir, l'alimentation et tout impacte sur le corps humain.
À cause de tout ça, le corps, il a besoin d'un check-up médical ou d'un bilan de santé?
On pourra considérer ça comme une machine. S'il n'y a pas l'entretien de cette machine, on ne pourra pas en fait savoir qu'est-ce qui se passe. Le bilan de santé est un diagnostic en réalité du corps humain. Il y a assez d'avantages. Le corps subit des évolutions, transformations. Il y a un dispositif d'examen biologique suivi d'un contrôle de poids, de tension, de vue, audition, de réflexe. Il pourrait se rapprocher de l'idée d'une révision. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'importance dans ce bilan de santé.
Quels sont les examens qui sont recommandés ou pratiqués pendant le bilan de santé?
Il y a l'examen biologique, normalement une prise de sang, l'analyse de l'urine. Il y a des tests visuels et auditifs, l'électrocardiogramme que les Américains appellent la plupart du temps EKG, un examen bucco-dentaire.
Pendant un bilan de santé, y a-t-il des examens spécifiques suivant certaines catégories de personnes?
Il y a la possibilité pour les patients qui sont déjà en âge, plus de 65 ans, 70 ans, la possibilité d'identification de l'Alzheimer et différentes maladies. Pour des fumeurs, il y a la radiographie pulmonaire. Pour les femmes, il y a la gynécologie, les plus d'examens. En fait.
Nous avons un auditeur, Gakdos Kebabe, depuis N'Djamena au Tchad. Il demande quel est l'âge recommandé pour commencer à faire son bilan de santé.
Je dirais un jour.
Donc, dès qu'on est quoi?
Dès qu'on est déjà, ça c'est déjà fait, mais après une semaine, tout individu peut chercher en fait à avoir un bilan de santé. Et c'est très très important. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment recommandé. Et je dirais une fréquence annuelle serait la meilleure approche. Et certaines personnes que je connais font à une fréquence biannuelle, c'est-à-dire deux fois par an.
Donc, cela signifie que le bilan de santé s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, aux citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde?
Tout le monde, toute la population. population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois qu'on se sent mal, ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire, pour employer le lexique francophone. Dans un pays francophone, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires. Nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher. Hein?
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais nous avons pensé à cette solution. Voilà pourquoi, au sein de SCB System, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo en fait, permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tout le coût du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire, nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez performer le bilan de santé annuel. Nous allons like, provide des services.
Pour fournir les services.
Yeah, merci, yeah, fournir les services. Donc avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie en 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses ça à juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. C'est ce que nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort en fait de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention en fait en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Oui, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Pour Dieu, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas en fait fait...
Conduit
l'étude sur l'entièreté de l'Afrique, vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas. Parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture. Donc, je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire, en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire des bilans de santé n'en font pas. Ils se disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent, oh, nous n'avons pas de temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste checker notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je vous dis, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
Identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque, que nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée, ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème, parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine, en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot, mais je dirais que le manque d'informations et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent, mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voit qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, c'est dire, mais si je suis bien important, pourquoi j'irai dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile juste parce que leur niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très, très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui est une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne, avoir des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permettent pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus. Combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved, nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans le pays développé, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous retrouvons à 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active. Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active. Donc, d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante et il ne sera pas à mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très, 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 très important. Et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an. Même, je dirais, une fois chaque deux années pour être OK pour un pays africain. Mais l'esprit du bilan de santé annuel, il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheick.
C'est avec un grand plaisir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était notre discussion avec Sekou Cheick Bomba, PDG de CBS Systems et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans carnet de santé, la faim dans le monde pourrait doubler en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, selon les experts. Coronavirus et pénurie alimentaire, une sombre réalité pour des familles au Zimbabwe. Ensuite, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies répondent à nos questions. Enfin, des salons de coiffure à Nairobi sensibilisent avec la mode coronavirus. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. Pénurie, augmentation des prix des denrées alimentaires, importation ralentie ou encore difficulté d'acheminement. Selon les experts, la pandémie du nouveau coronavirus a un impact sur les systèmes alimentaires mondiaux. Entre autres, les fermetures de frontières et le confinement ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. Et les populations vulnérables en payent le plus lourd tribut. Les agences humanitaires mettent en garde contre les conséquences désastreuses si les produits nutritionnels essentiels utilisés pour prévenir et traiter les carences micronutriments deviennent moins disponibles. Selon le Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes confrontées à une crise alimentaire doublera si des mesures ne sont pas prises rapidement. Récit de Mouamadou Oumfa.
La situation n'était pas déjà reluisante en 2019. 135 millions de personnes dans le monde, dont 55 pays, étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë du fait des conflits et des problèmes climatiques. Ce nombre pourrait quasiment doubler en 2020 pour atteindre 265 millions de personnes à cause du Covid-19. Parmi les pays qui inquiètent le programme alimentaire mondial, il y a le Soudan du Sud. Ce pays est en proie à la sécheresse et à des inondations qui ont détruit des cultures et du bétail. Avec le nouveau coronavirus, le déficit alimentaire va s'accentuer.
Nowhere else in the world has the level of food insecurity as South Sudan.
Aucun pays dans le monde ne souffre d'insécurité alimentaire autant que le Soudan du Sud. L'année dernière, nous avons dû nourrir 5 millions de personnes en raison des conflits et des inondations. Cette année 2020, nous avons eu des invasions de criquets et maintenant il y a la pandémie de COVID-19. Pour éviter le pire, il faut continuer à soutenir les opérations humanitaires comme celles que nous menons ici au Soudan du Sud.
Le soutien que sollicitent les agences humanitaires comme le PAM n'est pas du tout garanti cette année 2020. De nombreux pays doivent faire face à des tensions budgétaires causées par les pertes des recettes pétrolières, fiscales et douanières. Ce soutien est d'autant plus déterminant qu'il impacte directement les vies des millions de personnes sur le terrain.
Si mes enfants survivent, je veux qu'ils aillent à l'école et apprennent à prendre soin d'eux-mêmes.
Le PAM sollicite 350 millions de dollars dans le cadre d'un appel au financement lié au plan mondial d'intervention humanitaire face au Covid-19. Ces fonds aideront entre autres à prépositionner la nourriture plus près des personnes qui en ont le plus besoin avant que les chaînes d'approvisionnement ne soient totalement perturbées.
Au Zimbabwe, certaines familles souffrent sévèrement de la faim en raison des mesures barrières mises en place afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Dilidico.
Dans la cuisine de fortune, installée dans la cour de son logement de deux pièces, située dans le quartier défavorisé de Mbaré à Harare, Pamiré, une mère de famille zimbabwéenne, réchauffe les restes de la veille pour nourrir ses enfants. Le repas que nous avons mangé aujourd'hui a été préparé hier soir et tout est fini, y compris la farine de maïs, l'huile et le sel. Nous avons mangé très peu hier afin d'en garder pour aujourd'hui. Je réchauffais les restes sur le feu. Dans la sauce, il n'y a plus de viande, juste des légumes. La dernière fois que nous avons mangé de la viande, c'était il y a très longtemps. Nous ne savons pas ce que nous allons manger aujourd'hui. Pamiré explique avoir épuisé le peu de nourriture accumulée au cours des trois premières semaines de confinement, prolongées par les autorités jusqu'à nouvel ordre. Désormais, elle doit rationner les portions pour que chacun puisse en avoir un peu. Nous ne pouvons nous permettre de manger qu'une seule fois par jour, ce qui n'est pas suffisant. J'aimerais que le gouvernement nous donne de la nourriture afin que je puisse nourrir ma famille. Mais les autorités zimbabwéennes sont impuissantes face à la crise alimentaire aggravée par la pandémie de coronavirus. Le ministre des Finances zimbabwéen a averti la communauté internationale que si le pays ne recevait pas d'aide financière, la situation pourrait s'avérer catastrophique. La vie que nous menons en ce moment est très difficile. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai envoyé ma fille Anna vendre des boissons glacées pour amener un peu d'argent. Nous en avons besoin pour survivre, ne pas mourir de faim et acheter des condiments pour la cuisine. Pamiré, qui en plus de ses quatre enfants, s'occupe également de ses deux petits-enfants, faisait du commerce de vêtements et de chaussures avec la Zambie. Mais aujourd'hui, la frontière est fermée, son passeport a expiré et dans les meilleurs moments, elle doit nourrir sa famille de sept avec moins d'un dollar américain par jour.
Le rapport mondial sur la nutrition 2020 révèle que les inégalités dans les systèmes alimentaires et de santé aggravent les inégalités en matière de nutrition. Selon les chercheurs, COVID-19 pourrait inverser les progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. Jeanne Battersby-Leonard est professeure agrégée au Centre africain pour les villes de l'Université du Cap. Elle nous en dit plus.
Globalement, nous faisons face à une réalité où actuellement une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée ou a faim, une sur trois est en surpoids ou obèse. Nous observons donc de multiples formes de malnutrition qui sévissent réellement dans le monde. À l'échelle mondiale, nous avons constaté une réduction du retard de croissance de 166 millions d'enfants en 2012 à 149 millions d'enfants en 2018. Il y a donc eu des progrès significatifs dans ce domaine. Il y a vraiment des points lumineux. Je pense que l'accent mis cette année sur les inégalités nous a vraiment permis de parler de cette question de manière très significative. Et encore une fois, l'accent mis sur les systèmes alimentaires et sur ce qui nous atteint immédiatement, cela montre à quel point ce semblant de sécurité alimentaire était limité. Donc en quelques semaines, même en Afrique du Sud où je suis basée, nous avons commencé à voir de réels défis émerger avec l'accès à la nourriture. Et ce qu'il a révélé, c'est que le système alimentaire a vraiment été trop orienté sur la livraison des denrées de base. Ainsi, la livraison de maïs, de sorgho, de blé au détriment d'une alimentation plus nutritive est abordable pour les gens. Dans le contexte de COVID-19, lorsque les gens se retrouvent avec des sources de revenus réduites, leur accès au marché est réduit. Ce que nous constatons, c'est que les gens deviennent de plus en plus vulnérables à la malnutrition face au COVID-19.
Le nombre d'infections au nouveau coronavirus continue d'augmenter en Afrique. Les observateurs disent que le continent africain est susceptible de devenir le prochain épicentre de la pandémie. Je me suis entretenue avec le docteur Amel Ogwel Ouma, directeur adjoint des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Il partage son avis sur la question.
We do not think that Africa is going to be an epicenter.
Nous ne pensons pas que l'Afrique sera un épicentre de cette pandémie comme nous l'avons vu en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Et la raison est que les leçons que nous avons apprises des épidémies précédentes nous ont permis de comprendre beaucoup de choses. Dès que nous avons vu la propagation du virus vers des pays au-delà de la Chine, Nous avons commencé à renforcer les capacités de nos pays. Ensuite, c'est le travail en solidarité. Les pays se sont soutenus. Au début, nous n'avions que deux pays avec des laboratoires capables de diagnostiquer la maladie. Cela signifie que les ressources ont été partagées, en particulier l'expertise du continent, et cela a renforcé la capacité d'autres pays et d'autres experts.
La pandémie de COVID-19 a-t-elle un impact sur le système alimentaire chez vous? Voici vos réactions sur Facebook. Arcade Sony Moussassa écrit « Il est vrai que la situation devient très compliquée. La plupart des pays importent des aliments. La production locale est tellement en baisse en RDC, par exemple. Lorsque la maladie est apparue à Kinshasa, les marchands avaient augmenté les prix des produits de première nécessité. » Alphonse Mbouaki dit « Toutes les routes sont fermées, les véhicules sont stationnés sur place. » Pas de vol, pas d'acheminement de nourriture des lieux de production vers les centres de consommation. Rareté, flambée des prix pour le peu qu'on produit dans les périphéries des villes à vocation semi-rurale. Merci pour vos réactions. À Nairobi, la capitale du Kenya, les salons de beauté ont mis au point un modèle de coiffure baptisé coronavirus qui ressemble au virus COVID-19. Les coiffeurs disent que c'est une mode pour sensibiliser la population contre la propagation de la maladie dans le bidonville de Kibera.
Entre grimaces et souris, ces deux petites filles se plient à la volonté de leur coiffeuse dans ce salon de beauté à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. La coupe hérissée qu'elles veulent est encore trop nouvelle pour apparaître sur les affiches de coiffure qui les entourent. Ce nouveau style, les coiffeuses l'ont baptisé le coronavirus en référence à l'apparence épineuse du virus vu au microscope. Par cette coupe, ces travailleuses du secteur des services ont trouvé un moyen de générer des revenus. Le confinement a drastiquement réduit le nombre de leurs clients et bien évidemment, leurs portefeuilles ont pris un sérieux coup.
Pendant cette période de coronavirus, nous sommes vraiment touchés. Ce style que nous tressons, c'est une alternative moins chère pour les personnes qui subissent la dureté de la vie dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus. Tout le monde, où qu'il se trouve, devrait souvent se désinfecter et se laver les mains pour vaincre ce coronavirus.
Pour le secret de cette nouvelle coupe, les tresseuses du salon de beauté Mama Brayo commencent par séparer les cheveux de leurs clientes en une douzaine de sections. Elles les tordent ensuite et enveloppent chacune avec un fil noir épais, de sorte qu'elles puissent se dresser droit au mépris de la gravité du virus. Les tresses résultantes ressemblent aux protéines de pointe sur une membrane de coronavirus.
Le processus de tressage est un peu douloureux, mais j'essaie de tenir, de sorte que lorsque je sors à l'extérieur, ils savent que le style corona est là. Pas de tresse, pas de salsa, pas de tissage ou de perruque. Nous faisons juste du coronavirus. Où que vous soyez, venez ici pour la coiffure coronavirus.
Surtout que le prix adapté, moins $1, a été fixé en tenant compte des budgets épuisés par les mesures de prévention contre le coronavirus.
Corona a rendu la vie difficile et je n'ai pas d'argent pour payer des coiffures extravagantes. Alors, comme vous le voyez, je les ai amenées au salon pour faire ce style corona abordable pour le moment parce que la vie est devenue difficile.
Les bourses se sont effondrées. Avant la pandémie, une bonne journée pouvait rapporter environ $28. Mais actuellement, c'est le cas de cela selon Abouala qui espère que ce nouveau style stimulera les affaires.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiro et de Carl Sterling, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.